Paris, livre 5, chapitre 3. Depuis l'exécution de Salva, Guillaume était tombé dans un grand silence. Il semblait préoccupé, absent. Pendant des heures, il travaillait. Il fabriquait de cette poudre si dangereuse à la formule connue de lui seul. Des manipulations d'une délicatesse extrême pour lesquelles il ne voulait l'aide de personne. Puis, il s'en allait, il rentrait brisé par de longues promenades solitaires. Au milieu des siens, il restait très doux, s'efforçait de sourire. Mais il avait toujours l'air de revenir de très loin, dans un sursaut, lorsqu'on lui adressait la parole. Pierre, alors, s'imagina que son frère avait trop compté sur l'héroïsme de son renoncement et que la perte de Marie lui était intolérable. N'était-ce pas elle qui le hantait, qu'il regrettait à mesure que devenait plus prochaine la date fixée pour le mariage? Et il osa, un soir, s'en ouvrir à lui, offrant encore de partir, de disparaître. Au premier mot, Guillaume l'arrêta dans un cri de tendresse. « Marie, ah, mon petit frère, je l'aime trop, je t'aime trop pour regretter ce que j'ai fait. Non, non, vous ne me donnez que du bonheur, vous êtes tout mon courage, toute ma force, maintenant que je vous sais heureux l'un et l'autre. Et je t'assure, tu te trompes, je n'ai absolument rien, c'est le travail sans doute qui m'absorbe un peu. » Ce soir-là, il voulut réagir, il se montra d'une gaieté charmante. Au dîner, il demanda si le tapissier viendrait bientôt organiser pour le jeune ménage les deux petites pièces que Marie occupait au-dessus du laboratoire. Celle-ci, qui attendait, paisible et souriante, sans hâte ni gêne, depuis que le mariage était décidé, se mit alors à lui dire joyeusement tout ce qu'elle désirait. Une chambre rouge, tendue d'andrinople à 20 sous le mètre, des meubles de sapin verni qui lui feraient croire qu'elle était à la campagne. Enfin, un tapis par terre, parce qu'un tapis était pour elle le comble du luxe. Et elle riait, et il riait avec elle, l'air amusé et paternel, tandis que Pierre, que cette bonhomie soulageait, restait convaincu qu'il s'était trompé. Seulement, dès le lendemain, Guillaume retomba dans sa songerie, et l'inquiétude de Pierre recommença, lorsqu'il eut remarqué que jamais Mère Grand, elle aussi, ne lui avait paru si muette, dans un si haut et si grave silence. N'osant agir près d'elle, il eut d'abord l'idée vaine de faire causer les trois grands-fils, car ni François, ni Thomas, ni Antoine ne savaient rien, ne voulaient rien savoir. Ils passaient les jours chacun à sa tâche, d'une sérénité souriante, respectant, adorant le père, simplement. Vivant à son côté, il ne lui posait aucune question sur ses travaux, sur ses projets, trouvant que ce qu'il faisait ne pouvait être que juste et bon, prêt à le faire avec lui, sans examen, au moindre appel. Mais, évidemment, il les écartait de tout péril. Il gardait pour lui tout le sacrifice, et Mère Grand, seule, était sa confidente, celle qu'il consultait, qu'il écoutait peut-être. Aussi, Pierre, renonçant à rien deviner par les enfants, ne se préoccupa-t-il plus que de la gravité rigide où il la voyait, surtout lorsqu'il crut avoir surpris de fréquents entretiens entre Guillaume et elle, dans sa chambre, là-haut, près du logement de Marie. Il s'y enfermait, il devait s'y livrer à des besognes longues pendant lesquelles la chambre semblait morte, sans un souffle. Puis, un jour, Pierre vit Guillaume qui en sortait avec une petite valise d'apparence fort lourde. Tout de suite, il se souvint de la confidence de son frère, cette poudre dont une livre aurait fait sauter une cathédrale, cet engin destructeur qu'il voulait donner à la France guerrière, pour lui assurer la victoire sur les autres nations et faire d'elle ensuite l'initiatrice, la libératrice. Et il se rappela que Mère Grand était seule avec lui dans le secret, qu'elle avait longtemps couché sur des cartouches du terrible explosif, lorsque Guillaume craignait une visite de la police. Pourquoi donc, maintenant, déménageait-il ainsi la quantité de poudre qu'il fabriquait depuis quelque temps ? Un soupçon, une peur sourde, lui donna la force de demander brusquement à son frère. « Tu as donc quelque crainte que tu ne gardes rien ici ? Si des choses t'embarrassent, tu sais que tu peux tout déposer chez moi ou personne n'ira fouiller. » Étonné, Guillaume le regarda fixement. « Oui, j'ai su que les arrestations et les perquisitions recommencent depuis qu'ils ont guillotiné ce malheureux, dans la terreur où ils sont qu'un désespéré ne le venge. Et puis, ce n'est guère prudent de garder ici des matières d'une telle puissance de destruction. Je préfère les mettre en lieu sûr. » « À Neuilly ? Ah non, petit frère, ce n'est pas un cadeau pour toi. » Il parlait d'un air calme. Il avait eu à peine un tressaillement léger. « Alors, reprit Pierre, tout est prêt ? Tu vas remettre prochainement ton engin au ministre de la guerre ?» Une hésitation parut au fond de ses yeux de franchise. Il fut sur le point de mentir, puis tranquillement, « Non, j'y ai renoncé. J'ai une autre idée. » Et cela était dit d'un air de décision si redoutable que Pierre n'osa l'interroger davantage, lui demander quelle était cette autre idée. Mais, à partir de cette minute, une attente inquiète le laissa frissonnant. Il sentit d'heure en heure, dans le haut silence de Mère Grand, dans le visage de plus en plus héroïque et affranchi de Guillaume, naître là et grandir et déborder sur Paris entier l'énorme et terrifiante chose. Un après-midi que Thomas devait se rendre à l'usine Grandidier, on apprit que Toussaint, le vieil ouvrier, venait d'être frappé d'une nouvelle attaque de paralysie, et Thomas promit de monter en passant chez le pauvre homme qu'il estimait, pour voir si l'on ne pourrait pas lui être de quelque secours. Pierre voulut l'accompagner, tous deux partirent vers 4 heures. Dans l'unique pièce que les Toussaints habitaient, où ils mangeaient et où ils couchaient, les deux visiteurs trouvèrent le mécanicien assis près de la table, sur une chaise basse, l'air foudroyé. C'était une hémiplégie qui, en paralysant tout le côté droit, le bras et la jambe, lui avait aussi envahi la face, à ce point que la parole était abolie. Il ne poussait plus que des grognements gutturaux, incompréhensibles. La bouche se tordait à droite. Tout le bon visage rond, à la peau tannée, aux yeux clairs, s'était contracté en un masque effrayant d'angoisse. L'homme était terrassé à 50 ans, la barbe inculte et blanche comme celle d'un vieillard, les membres noueux mangés par le travail, désormais morts à toute besogne. Et les yeux seuls vivaient, faisaient le tour de la chambre, allaient de l'un à l'autre, tandis que Madame Toussaint, toujours grasse, même lorsqu'elle ne mangeait pas à sa faim, restait active et de tête solide dans son malheur, s'empressait autour de lui. « Toussaint, c'est une bonne visite. C'est Monsieur Thomas qui vient te voir, avec Monsieur l'abbé. » Elle se reprit tranquillement. « Avec Monsieur Pierre, son oncle. Tu vois bien qu'on ne t'abandonne pas encore. » Toussaint voulut parler, mais son effort impuissant en amena que 2 grosses larmes dans ses yeux, et il regardait les nouveaux venus d'un air d'indicible détresse, les mâchoires tremblantes. « Ne t'émotionne donc pas, reprit la femme. Le médecin a dit que ça ne te valait rien. » En entrant, Pierre avait remarqué que 2 personnes se levaient, se retiraient un peu à l'écart, et il eut la surprise de reconnaître Madame Théodore et la petite Céline, toutes les 2 proprement vêtues, l'air à leur aise. Elles étaient venues voir l'une son frère, l'autre son oncle, en apprenant l'accident, avec le bon cœur de tristes créatures qui avaient connu les pires souffrances. Maintenant, elles semblaient à l'abri de la misère noire, et Pierre se rappela ce qu'on lui avait conté, l'extraordinaire mouvement de sympathie autour de la fillette après l'exécution du père, les dons nombreux, toute une lutte de générosité à qui l'adopterait, enfin l'adoption par un ancien ami de Salvat qu'il avait fait rentrer à l'école, en attendant de la mettre en apprentissage, pendant que Madame Théodore elle-même était placée comme garde-malade dans une maison de santé. C'était, pour elles deux, le salut. Comme Pierre s'approchait pour embrasser la petite Céline, Madame Théodore dit à celle-ci de bien remercier encore Monsieur l'abbé. Elle continuait à l'appeler respectueusement ainsi. « C'est vous, Monsieur l'abbé, qui nous avez porté bonheur. Ça ne s'oublie pas. Je lui répète toujours de ne pas oublier votre nom dans ses prières. » « Alors, mon enfant, vous retournez à l'école ?»« Oh oui, monsieur l'abbé, je suis bien contente. Et puis, nous ne manquons plus de rien. » Une émotion l'étrangla. Elle bégaya dans un sanglot. « Ah, si ce pauvre papa nous voyait !» Madame Théodore prenait poliment congé de madame Toussaint. « Eh bien, adieu, nous nous en allons. C'est triste tout de même ce qui vous arrive. » Et nous avons voulu vous dire la peine que ça nous fait. L'ennui, quand le malheur s'en mêle, c'est qu'avec du courage, on ne réussit quand même à rien. Céline, viens embrasser ton oncle. Mon pauvre frère, je te souhaite de retrouver tes deux jambes le plus vite possible. » Elles baisèrent le paralytique sur les joues. Elles s'en allèrent. Et Toussaint, qui avait écouté, qui avait regardé, les suivit de ses yeux si vifs, si intelligent encore, comme brûlée du regret et du désir de cette vie, de cette activité où elle retournait. Malgré sa belle humeur coutumière, Madame Toussaint fut mordue d'une pensée jalouse. « Ah, mon pauvre vieux !» dit-elle, après avoir mis un oreiller derrière le dos de son homme. « En voilà deux qui ont eu plus de chance que nous. Depuis qu'on a coupé la tête à ce fou de Salvat, tout leur réussit. Leur affaire est faite, elles ont du pain sur la planche. » Puis, se tournant vers Pierre et Thomas, « Tandis que nous autres, nous sommes bien fichus, le nez dans la crotte, sans un espoir de nous en retirer. Que voulez-vous? Nous crèverons de faim. Mon pauvre homme n'a pas été guillotiné, il n'a fait que travailler toute sa vie. Et vous le voyez, le voilà fini, comme une vieille bête qui n'est plus bonne à rien. » Elle les fit asseoir. Elle répondit à leurs questions apitoyées. Le médecin était venu déjà deux fois, et il leur avait promis de rendre la parole au malade, de lui permettre peut-être de faire le tour de la chambre avec une canne. Quant à jamais se remettre sérieusement au travail, il n'y fallait pas compter. Alors, à quoi bon? Les yeux de Toussaint disaient qu'il aimait mieux mourir tout de suite. Lorsqu'un ouvrier ne travaille plus, ne nourrit plus sa femme. Il est mûr pour la terre. « Des économies, » reprit-elle. « Il y a des gens qui me demandent si nous avons des économies. Nous avions près de 1 000 francs à la caisse d'épargne lorsque Toussaint a eu sa première attaque. Et l'on ne s'imagine pas ce qu'il faut de sagesse pour mettre de côté une pareille somme. Car enfin, on n'est pas des sauvages. On se donne de temps à autre une petite fête, un bon plat, arrosé d'une bonne bouteille. Et en 5 mois de chômage forcé, avec les remèdes, avec les viandes saignantes, nous avons mangé les 1 000 francs. Et bonté du ciel, maintenant que ça recommence, nous ne sommes pas prêts de connaître le vin cacheté et le goût du gigot à la broche. » Ce cri de la commère friande qu'elle avait toujours été disait plus que ses larmes contenues sa terreur du lendemain. Elle restait debout, brave quand même. Mais quel écroulement! Quelle fin du monde, si elle ne pouvait plus tenir sa chambre bien propre, cuisiner le dimanche un morceau de veau à la casserole, attendre le retour de son homme, chaque soir, en causant avec les voisines. Autant valait-il qu'on les jetât au ruisseau et que le tombereau les emportât. Thomas intervint. Est-ce qu'il n'existe pas un asile des invalides du travail? Et ne pourrait-on y faire entrer votre mari? Il me semble que sa place y est toute marquée. Ah oui, dit la femme, on m'en a parlé. J'ai déjà pris mes renseignements. Ils ne prennent pas les malades dans cette maison-là. Quand on y va, ils vous répondent qu'il y a des hôpitaux pour les malades. Et Pierre, d'un geste découragé, confirma l'inutilité de la démarche. Lui, dans une brusque vision, venait de se revoir battant Paris, courant de la baronne du Villard, présidente, à l'administrateur général Fonsègue, pour n'arriver à faire admettre le triste la veuve que lorsqu'il était mort. Mais, à ce moment, il y eut un vagissement d'enfant tout jeune, et les deux visiteurs furent stupéfaits de voir Madame Toussaint entrer dans l'étroit cabinet où son fils Charles avait longtemps couché, puis en ressortir avec un poupon de 20 mois à peine sur les bras. « Mon Dieu, oui, expliqua-t-elle, c'est le petit de Charles. Il dormait là, dans l'ancien lit de son père, et vous l'entendez, il s'éveille. Imaginez-vous que l'autre mercredi, juste la veille du jour où Toussaint a été frappé, j'étais allée le reprendre chez la nourrice à Saint-Denis, parce qu'elle menaçait de le mettre à la borne, depuis que Charles, qui se dérange, ne la payait plus. Je me disais, n'est-ce pas, que le travail semblait recommencer et qu'on arriverait toujours à nourrir une petite bouche comme ça. Puis voilà que tout craque. Enfin, que voulez-vous, maintenant qu'il est ici, je ne peux pourtant pas le descendre dans la rue. » Tout en parlant, elle marchait, elle dodelinait l'enfant pour qu'il se calmât. Et elle continuait, elle revenait sur la bête d'histoire, cette bonne du marchand de vin d'en face, avec laquelle Charles avait eu la sottise de coucher sans précaution, et qui lui avait laissé ce beau cadeau, en se sauvant au cou d'un autre homme, comme la dernière des traînées qu'elle était. Encore si Charles avait travaillé ainsi qu'autrefois, avant son service militaire, lorsqu'il ne perdait pas une heure et qu'il rapportait toute sa paix. Mais il était revenu moins franc à la besogne. Il raisonnait, il avait des idées. Et maintenant, sans en être encore à jeter des bombes, comme ce fou de Salva, il perdait la moitié de ses journées à fréquenter des socialistes, des anarchistes, qui lui brouillaient la tête. C'était un vrai chagrin de voir un si fort, un si brave garçon tourner si mal. Et l'on assurait dans le quartier qu'il y en avait beaucoup de pareils, que les meilleurs, les plus intelligents en avaient assez de la misère, du travail qui ne nourrit pas son homme, et qu'il finirait par tout chambarder plutôt que de vieillir sans être sûr de manger du pain jusqu'au bout. Ah, les fils ne ressemblent guère au père. Ces gaillards-là n'auront pas la patience de mon pauvre vieux Toussaint, qui s'est laissé manger la peau et les os, jusqu'à n'être plus que la triste chose que vous voyez là. Savez-vous ce que Charles a dit lorsque l'autre soir il a trouvé son père sur cette chaise, sans bras ni jambes, la langue morte? Il s'est fâché. Il lui a crié qu'il avait sa vie entière été une foutue bête de s'exterminer pour les bourgeois, qu'il ne lui apporterait pas aujourd'hui un verre d'eau. Puis, comme il n'est pas méchant, au fond, il a pleuré ensuite toutes les larmes de son corps. L'enfant ne criait plus. Elle allait et venait toujours, le berçant, le serrant contre son cœur de bonne grand-mère. Son fils Charles ne pourrait rien faire pour eux. Peut-être une pièce de 100 sous de temps à autre. Et encore. Elle, rouillée, n'essaierait pas de se remettre à son ancien métier de lingère. D'ailleurs, tenter même de trouver des ménages devenait difficile avec ce marmot sur les bras. Et avec l'autre, le grand enfant, l'infirme, qu'elle devait nettoyer et faire manger. Quoi alors? Qu'allaient-ils devenir tous les trois? Elle ne savait point. Elle en avait le frisson, toute maternelle et brave qu'elle voulut paraître. Et Pierre et Thomas se sentirent l'âme bouleversée de pitié. Lorsque, dans la triste chambre de travail et de misère, si propre encore, ils virent sur les joues de Toussaint foudroyé, immobile, rouler de grosses larmes. Il avait écouté sa femme, il la regardait, il regardait le pauvre petit être endormi entre ses bras, et désormais sans voix pour crier sa plainte, tout crevait au fond de lui en un flot amer, intarissable. Sa longue existence de travail bafouée et dupée, l'injustice affreuse d'un tel effort, aboutissant à une telle souffrance, la colère de se sentir là, impuissant, de voir les siens, innocents comme lui, souffrir de son mal, mourir de sa mort. Ah, ce vieil homme, cet éclopé du travail, finissant en bête fourbue, tombé à la borne. Et cela était si révoltant, si monstrueux, qu'il voulut le dire, et que sa peine s'acheva en un effroyable et rauque grognement. « Tais-toi, ne te fais pas plus de mal !» conclut Madame Toussaint. « Puisque c'est comme ça, c'est comme ça !» Elle était allée recoucher le petit, et elle revenait. Thomas et Pierre allaient lui parler de Monsieur Grandidier, le patron de Toussaint, lorsqu'une visite nouvelle se présenta. Ils attendirent un instant. C'était Madame Chrétienneau, la femme du petit employé, l'autre sœur de Toussaint, plus jeune que lui de 18 ans. La belle Hortense, qui avait appris la catastrophe, apportait ses regrets, correctement, bien que son mari lui eût fait rompre à peu près tout rapport avec sa famille, dont il avait honte. Et elle était venue en robe de petite soie, coiffée d'un chapeau à pavot rouge, qu'elle avait déjà refait 3 fois. Mais malgré ce luxe, elle sentait la gêne, elle cachait ses pieds à cause de ses bottines éculées. Une récente fausse couche l'avait beaucoup enlaidie, achevant le désastre de sa beauté blonde si vite fanée. Dès le seuil, elle parut glacée par l'aspect terrifiant de son frère, par le dénuement de cette pièce de souffrance où elle entrait. Et, après l'avoir embrassé, en disant son chagrin de le trouver ainsi, elle se mit à geindre tout de suite sur son propre sort. Elle conta ses embarras, dans la crainte qu'on ne lui demandât quelque chose. « Ah, ma chère, vous êtes certainement bien à plaindre. Mais si vous saviez, tout le monde a ses peines. Ainsi, moi, qui suis forcée de porter chapeau et d'avoir des robes possibles à cause de la situation de mon mari, vous ne vous imaginez pas la peine que j'ai pour joindre les deux bouts. On ne va pas loin avec 3 000 francs d'appointement, surtout lorsqu'on doit prendre là-dessus 700 francs de loyer. Vous me direz que nous pourrions nous loger plus modestement. Mais non, ma chère, il me faut bien un salon à cause des visites que je reçois. Alors comptez. Et il y a aussi mes 2 filles. J'ai dû les envoyer au cours. Lucienne a commencé le piano. Marcel a des dispositions pour le dessin. À propos, je les aurais volontiers amenées, mais j'ai craint pour elles la trop grosse émotion. Vous m'excusez, n'est-ce pas ? Elle dit encore toutes les contrariétés que la lamentable fin de Salva lui avait fait avoir avec son mari. Celui-ci, vaniteux, petit et rageur, était outré d'avoir maintenant un guillotiné dans la famille de sa femme. Et il devenait dur pour la malheureuse, l'accusant de leur embarras, la rendant responsable de sa propre médiocrité, aigrie chaque jour davantage par l'étroite vie de bureau. Certains soirs, on se querellait, elle lui tenait tête, racontait qu'elle aurait pu épouser un médecin, qui la trouvait assez jolie pour ça quand elle était demoiselle de comptoir chez le confiseur de la rue des Martyrs. Et maintenant que la femme s'enlaidissait, que le mari se sentait condamné à l'éternelle gêne, même avec les 4 000 francs d'appointements rêvés, le ménage tombait de plus en plus à une existence maussade, inquiète et querelleuse, aussi intolérable, dans la gloriole payée si chèrement d'être un monsieur et une dame, que la misère noire des ménages ouvriers. « Enfin tout de même, ma chère, » dit Madame Toussaint, lassée par cet étalage des ennuis de sa belle-sœur, « vous avez eu une chance de ne pas avoir un 3e enfant. » Hortense soupira d'un air de soulagement profond. « Ah, c'est bien vrai, car je me demande comment nous l'aurions élevé, celui-là. Sans compter que Chrétienneau me faisait des scènes abominables en me disant que, si j'étais enceinte, il n'y était pour rien, et que le jour où il y aurait un 3e enfant, il me planterait là et s'en irait vivre ailleurs. Vous savez que j'ai failli mourir de ma fausse couche. Oh, quelque chose d'affreux, dont je suis encore détraqué. Le docteur, maintenant, dit que je mange trop mal, qu'il me faut de la bonne nourriture. Tout ça ne fait rien, j'ai quand même été bien contente. Ça se comprend, ma chère, puisque vous ne demandiez que ça. Évidemment, nous ne demandions que ça. Chrétienneau répétait qu'il en danserait de joie. Et pourtant... Un subit attendrissement fit trembler la voix d'Hortense. Quand le docteur a regardé et nous a dit que c'était un garçon, j'ai senti un si gros regret que j'en suis restée toute suffoquée. Et j'ai bien vu que Chrétienneau se détournait pour ne pas qu'on remarquât sa figure à l'envers. Nous avons deux filles, ça nous aurait fait tant de plaisir d'avoir un fils. Des larmes noyèrent ses yeux. Elle acheva en bégayant. Enfin, puisque nous ne pouvons pas nous permettre le luxe d'en avoir un, ça vaut mieux que celui-là ne soit pas venu. Il a bien fait, pour lui et pour nous, de retourner d'où il venait. Oh, n'importe, ça n'est pas drôle. Il y a vraiment trop d'embêtement dans l'existence. Elle se leva, elle voulut partir, après avoir embrassé de nouveau son frère, car elle craignait encore une scène si son mari rentrait sans la trouver chez elle. Puis, debout, elle s'attarda. Elle dit qu'elle avait, elle aussi, vu sa sœur, Madame Théodore, et la petite Céline, proprement nippée, heureuse désormais. Et elle conclut à son tour avec une pointe de jalousie. « Mon mari à moi se contente d'aller tous les matins s'éreinter à son bureau. Jamais il ne se fera couper le cou. Et personne, bien sûr, ne s'avisera de laisser des rentes à Marcel et à Lucienne. » « Enfin, ma chère, ayez du courage. Il faut toujours espérer que ça finira bien. » Quand elle s'en fut allée, Pierre et Thomas, avant de partir aussi pour se rendre à l'usine, voulurent savoir si M. Grandidier, le patron, prévenu du malheur de Toussaint, s'était engagé à lui venir en aide. Il n'avait encore fait qu'une promesse assez vague. Ils résolurent donc de lui parler chaudement, en faveur du vieux mécanicien depuis 25 ans dans la maison. Le pis était qu'un ancien projet de caisse de secours, même de caisse de retraite, mis à l'étude autrefois, avant la crise dont l'usine se relevait, avait sombré au milieu de toutes sortes de complications et d'obstacles. Autrement, Toussaint aurait eu peut-être le droit d'être infirme, sans mourir complètement de faim. Et il n'y avait plus d'autre espoir pour l'ouvrier foudroyé que dans la charité, sinon dans la justice du patron. Le petit de Charles s'étant remis à pleurer, Madame Toussaint venait de le reprendre dans ses bras, et elle le promenait de nouveau lorsque Thomas serra la bonne main du paralytique entre les deux siennes. « Nous reviendrons. Nous ne vous abandonnerons pas. Vous savez bien qu'on vous aime. » Parce que vous avez été un brave et solide travailleur. Comptez sur nous. Nous allons faire tout ce que nous pourrons. » Et ils le laissèrent, dans la chambre morne, les yeux en larmes, terrassé, bon pour l'abattoir. Tandis que sa femme berçait autour de lui l'enfant criard, un misérable de plus, si lourd aujourd'hui au vieux ménage, et qui, plus tard, crèverait à son tour de misère et d'injuste travail. Le travail manuel, grondant et haletant sous l'effort, Pierre et Thomas le retrouvèrent à l'usine. Les minces tuyaux sur les toitures jetaient leur souffle rythmique de vapeur, comme s'ils eussent réglé la respiration même de la besogne commune. Et, dans les ateliers d'hiver, c'était un ronflement continu d'activité, tout un peuple d'ouvriers en branle, forgeant, limant, perçant, au milieu du vol des courroies et de la trépidation des machines. La journée s'achevait dans la fièvre d'énergie coutumière avant que le coup de cloche sonnât le départ.